Bonjour, vous êtes à l'écoute de l'émission mensuelle de l'association Noah Osez le dire, qui est une ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes qui subissent des violences conjugales. Notre permanence est désormais du lundi au jeudi de 13h à 16h sans interruption. Vous pouvez nous joindre au numéro suivant, le 01 47 07 39 55, je répète, le 01 47 07 39 55. Nous avons également un site internet noahosezledire.fr et nous sommes désormais sur Facebook, donc vous pouvez regarder nos vidéos et nos prises de position. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux avocates, maître Catherine Perel-Mutter et maître Céline Marcovici. Toutes les deux font partie de l'association des femmes victimes de violences conjugales.
Exactement, l'association Avocats Femmes et Violences.
Voilà. Vous avez co-écrit, vous, Céline Marcovici, un guide juridique des femmes victimes de violences conjugales, ainsi que Mai Kim Yang Paya, j'espère que j'écorche pas son nom.
Avec la présidente, donc, qui est Madame Kim Yang Paya, qui est présidente de cette association et qui a été créée depuis 1997.
D'accord.
Et pour ma part, je suis secrétaire générale de cette association.
D'accord. Quant à vous, maître Catherine Perel-Mutter, vous travaillez en tant que référent bénévole, bien sûr, enfin bon... en tout cas pour nous, vous avez accepté de répondre aux interrogations et voir aux procédures des femmes qui feraient appel à vous.
Donc
vous travaillez avec Noah depuis 3-4 ans, j'imagine.
Oui, absolument.
Si ma mémoire est bonne.
Oui, absolument.
Donc, voilà, donc, toutes les deux, vous êtes parfaitement au fait de ce qui se passe pour ces femmes victimes de violences conjugales. Alors, on va essayer de faire un cycle d'émissions, parce que tout ce que contient ce guide est très précis et très long. Donc, on va commencer par la question que peuvent se poser les femmes qui subissent des violences conjugales, à savoir, je suis victime de violences physiques. On va d'abord parler des violences physiques. Qu'est-ce que je peux faire ?
Alors, effectivement, ce guide juridique donne la marche à suivre en cas de violence faite aux femmes. Alors, quelle est la première démarche, le premier réflexe que doit avoir une femme victime de violence, hein, que ça soit physique ou autre, c'est d'aller porter plainte. Effectivement, cette première démarche est fondamentale parce que, comme on l'indique dans le guide, c'est ce qui va permettre le déclenchement des poursuites judiciaires. Alors, évidemment, ça peut paraître anodin, comme ça de le dire, d'aller déposer plainte. Mais malheureusement, les femmes victimes de violences sont souvent en fait isolées et n'osent pas briser la loi du silence. Et donc cette première démarche est très dure. C'est une grande étape pour elles parce que c'est dénoncer tous ces faits qui sont douloureux. Hein, c'est un vécu douloureux pour elles. Et dans le cadre des violences conjugales, effectivement, elles ont peur notamment des représailles, hein, il faut le dire. Mais par ailleurs, elles peuvent être aussi dans une situation de dépendance économique. C'est-à-dire que l'époux, le conjoint ou le concubin qui, effectivement, assume financièrement la famille et qu'elles se disent qu'elles ne pourront pas assumer toutes seules la charge financière d'une telle famille.
Dans les appels que nous recevons, il y a beaucoup de femmes qui refusent d'aller porter plainte. Est-ce que une main courante est un élément qui peut jouer ? Catherine ?
Oui, alors en fait, une main courante n'a pas du tout le même effet que le dépôt de plainte, puisque le dépôt de plainte va permettre au procureur de se saisir de l'affaire, aux officiers de police judiciaire qui vont donc déclencher une enquête, alors que la main courante, c'est un simple constat d'une situation à un moment donné, mais qui n'entraîne pas obligatoirement une enquête. Alors c'est vrai que dernièrement, il y a eu quand même quelques progrès, et c'est vrai que parfois, lors de certains faits qui sont quand même assez graves, le procureur peut se saisir de cette main courante pour déclencher une enquête. Mais il faut vraiment que les faits soient très graves. Donc effectivement, pendant de nombreuses années, quand les femmes allaient déposer plainte au commissariat, les policiers leur disaient pas toujours de déposer plainte. Elles déposaient des mains courantes, mais en fin de compte, ça ne servait à rien parce que la procédure pénale ne se mettait pas en marche.
Vous, en tant qu'avocate de droit de la famille, en cas de procédure de divorce, est-ce qu'une main courante peut vous servir ? Je dis ça parce qu'il y a vraiment des femmes, surtout dans notre communauté, qui refusent de porter plainte.
Alors, ce sont deux effets différents. Disons que la main courante va être un constat d'une situation de violence à un moment donné, mais évidemment, ça n'est pas suffisant. Parce que, par exemple, pour qu'il y ait vraiment une suite à une situation de violence, il faut des certificats médicaux, il faut le dépôt de plainte, parce que le dépôt de plainte entraîne la réquisition judiciaire et du coup, la plaignante va être examinée par le service médico-judiciaire d'un hôpital. Donc, c'est un certificat qui fait foi, plus que des certificats qui sont délivrés par des médecins de ville. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, si vous voulez. On peut très bien déposer une main courante et déposer plainte en même temps.
D'accord. Maître Mercovici, lorsqu'une femme a déposé une plainte, quelles sont les suites ? Que se passe-t-il à ce moment-là ?
Alors ensuite, une fois que la plainte est déposée, il y a une enquête qui va être menée. Alors soit on est dans le cadre d'une enquête de flagrance, soit dans le cadre d'une enquête préliminaire. De flagrance, c'est quand il existe des raisons suffisantes pour constater l'infraction ou alors que quelqu'un a pu constater directement l'infraction. Et à ce stade-là, plusieurs mesures peuvent être prises. Alors au stade de l'enquête, bien évidemment, c'est toujours sous le contrôle du procureur de la République. Les OPJ, les officiers de police judiciaire vont en informer le procureur de la République. Public et sous le contrôle du procureur vont mener cette enquête. Alors, en quoi consiste cette enquête ? Il y a plusieurs.
Tout de suite, c'est-à-dire la femme porte plainte.
Oui.
Elle a reçu des coups. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le mari est mis en garde à vue tout de suite ? Est-ce qu'elle est mise à l'abri ? Parce que c'est ça,
possible.
La crainte.
C'est possible que le mari, et c'est vrai que c'est en tout cas c'est la politique judiciaire, on peut le constater. Hein, en général, effectivement, le mari va être interpellé directement. Ça peut être directement aussi au domicile et placé en garde à vue. Et ensuite, il y a les suites effectivement judiciaires. Et lorsqu'elle va déposer plainte, hein, les officiers de police judiciaire ont l'obligation de remettre un avis à victime. C'est-à-dire qu'au terme de cet avis, il y a notamment toutes les associations d'aide aux victimes qui sont précisées et le fait aussi qu'elle peut être prise en charge par des associations, être mise à l'abri avec ses enfants, hein, notamment avec ses enfants. Donc elle peut quitter le domicile conjugal avec ses enfants et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de la main courante, en tout cas lorsqu'une femme décide de quitter le domicile conjugal, c'est de faire constater en tout cas au terme d'une main courante qu'elle va quitter le domicile conjugal pour les faits de violence dont elle est victime. Mais effectivement, il y a des mesures qui sont prises dès le début.
La crainte des femmes, c'est je vais aller porter plainte, je vais retourner chez moi et cette fois-ci, je vais me prendre des coups encore plus violents. Alors, maître Perelmutter...
Rien n'est automatique, c'est-à-dire qu'il peut être en garde à vue et ensuite il peut être relâché avec une convocation pour une audience de COPJ, convocation par officier de police judiciaire. On n'est pas obligé de, sauf si les faits sont très graves à ce moment-là, le procureur effectivement peut saisir un juge d'instruction et le juge d'instruction peut décider d'une détention provisoire. Mais alors par contre, au niveau du contrôle judiciaire, quand le mari ou le conjoint ou le pacsé est entendu par la police, il peut y avoir des mesures d'éloignement, c'est-à-dire qu'on peut lui enjoindre une interdiction d'entrer en relation. Avec la victime. Ça peut être une obligation qui peut être mise à la police, au moment de la police. Mais effectivement, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas vraiment de système de protection des témoins. Et c'est vrai que dès qu'on a déposé plainte, il faut un peu... Alors après, il y a l'ordonnance de protection dont on vous parlera tout à l'heure, effectivement.
Alors je vous propose qu'on fasse une petite interruption musicale, comme d'habitude, dans cette émission. Et nous reprendrons notre entretien tout de suite après.
Velayla. Hainai mai a fota do boke Has fatayim lo khashot le lo mano Hi lo doma le afakha Ki hi lo doma le afakha ta khere le afakha shoveret barkhot משונה וכשהיא מדברת קולה עושה לי משהו קרוב היא לא רואה אני כאן כל הלילה עומד בצד ומסתכל איש מאוהב contraire.
Nous reprenons notre entretien avec les deux avocates que nous avons invitées, maître Catherine Perel-Mutter, qui travaille avec NOA depuis 3-4 ans, et maître Céline Marcovici, qui est co-auteur du guide juridique des femmes victimes de violences, qui est édité, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, aux éditions Alma. Éditeur. Donc vous pouvez vous le procurer dans toutes les bonnes librairies, on dit ?
Oui, dans un certain nombre de librairies, mais également sur Internet directement, sur voilà, les sites très connus, hein, la FNAC, Amazon.
D'accord. Donc c'est un guide qui est extrêmement précis et qui peut répondre à toutes vos questions. Donc je vous rappelle que l'émission de l'association NOA, Osez le dire, c'est une ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes victimes de violences conjugales, que vous pouvez nous joindre désormais du lundi au jeudi de 13h à 16h sans interruption, que vous pouvez nous appeler au 01 47 07 39 55. Je répète, 01 47 07 39 55. Donc, maître Marcovici et maître Perel-Mutter, nous allons continuer les explications très intéressantes que vous nous donniez. Donc là, la femme a déposé une plainte, le mari a été convoqué au commissariat, on va faire simple. Ensuite, que se passe-t-il ? Alors, il y a éventuellement une mesure d'éloignement du mari du domicile conjugal. Comment les choses se passent-elles ?
Alors, cette mesure d'éloignement du domicile peut être donc ordonnée par le procureur, mais c'est aussi une mesure qui peut être prise dans le cadre de l'ordonnance de protection. C'est-à-dire qu'en fait, plusieurs procédures parallèles peuvent être introduites. Il y a la procédure pénale, donc le dépôt de plainte, et la procédure civile. La procédure civile, c'est essentiellement l'ordonnance de protection qui donc a été prise par la loi du 10 juillet 2010, qui a été améliorée par la loi de 2014 et qui prévoit effectivement certaines mesures que le juge aux affaires familiales, donc ça n'est pas le même juge, ça n'est pas le juge pénal, donc le juge aux affaires familiales peut ordonner à la suite d'une requête déposée pour avoir une ordonnance de protection, différentes mesures qui sont énumérées donc dans le code civil, puisqu'il s'agit d'attributions finalement du juge aux affaires familiales, mais qui dépassent sa compétence, qui sont des attributions presque pénales, puisque le juge aux affaires familiales peut même confisquer l'arme, peut même, vous voyez, ça va très loin. Cette loi a permis de donner au juge aux affaires familiales des pouvoirs exorbitants, en fait, mais qui sont là pour protéger la femme.
Et alors, est-ce que c'est une mesure qui s'effectue rapidement ? Parce que c'est aussi une des questions qui nous sont posées par les femmes qui nous appellent en disant « Oui, d'accord, on va proposer l'éloignement du mari du domicile conjugal. Et en attendant, qu'est-ce que je fais ?»
Alors, effectivement, hein, l'ordonnance de protection et la procédure qui est mise en place, c'est une procédure dite d'urgence. Donc, ça doit permettre de mettre en place des solutions assez rapidement. Il y a tout de même un délai de convocation. Il faut savoir que lorsqu'on va assigner une personne, le mari violent en l'occurrence, il y a un délai de 15 jours impératif à respecter. Donc, on a tout de même des délais impératifs de procédure. Ensuite, effectivement, le magistrat va statuer sur les mesures, mais dans l'attente et toujours par précaution. Et nous, c'est ce qu'on préconise également auprès des femmes, hein, qui nous appellent dans le cadre des permanences téléphoniques, c'est qu'en cas de grave danger, il faut qu'elles se mettent à l'abri en attendant. Il faut qu'elles se mettent à l'abri. C'est possible, comme on l'a évoqué tout à l'heure, que dans le cadre de la procédure pénale, à condition bien évidemment qu'elles aient déposé plainte, hein, et qu'il y ait un suivi, comme on l'a dit, c'est possible qu'il y ait un éloignement qui soit ordonné dès le tout début de la procédure pénale par le procureur ou par ou dans le cadre de l'instruction judiciaire. Mais si on n'a pas de telles mesures qui sont ordonnées, il faut que la femme se mette à l'abri avec ses enfants et fasse appel et recours soit dans sa famille ou alors et recours aux associations d'hébergement, car effectivement elle encourt un danger, et ça on le répète assez, parce qu'on n'est pas non plus à l'abri d'un renvoi en matière judiciaire. Il faut savoir que voilà, on respecte un certain nombre de règles, et que le défendeur, le mari violent, pourrait demander un renvoi. Donc pour essayer notamment de pallier à ces difficultés de procédure, il faut que la femme victime de violence prenne ses précautions.
Alors, vous nous avez expliqué que lors d'une dépôt de plainte, le mari ou le conjoint, enfin le concubin, était convoqué au commissariat, que la plainte était transmise au procureur de la République. Donc, que se passe-t-il ? Quelle est la suite ? Quelle est la suite des événements ?
Alors, le procureur de la République, monsieur le procureur de la République, a ce qu'on appelle le principe de l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire qu'il peut classer l'affaire ou alors transmettre cette affaire pour qu'elle ait des suites. Alors, ça peut être sous forme de... Il peut y avoir une citation directe, il peut y avoir une convocation par un officier... Enfin, le monsieur peut être convoqué par COPJ. Et alors... Comment prend-il sa décision ? C'est en fonction des preuves. Parce qu'effectivement, dans ce type d'affaires, il faut, comme dans toutes les affaires juridiques, d'ailleurs, il faut des preuves, il faut prouver la culpabilité. Et bon, quand il y a des traces physiques, il y a des certificats médicaux, des hématomes, etc., ça ne pose pas de difficultés. Même si les sanctions ne sont pas toujours à la hauteur des espérances des victimes. Mais c'est vrai que dans le cadre de violences psychologiques, c'est un peu plus compliqué. Alors maintenant, c'est vrai que les UMJ, les urgences médico-judiciaires, font quand même des certificats pour les violences psychologiques avec des ITT, des incapacités temporaire totale de plusieurs jours, ce qui permet quand même d'aller devant un tribunal, devant quoi, un finalement. Tribunal. Oui.
Et comment, alors, est-ce que la jeune femme, la femme qui entame cette procédure, doit assister aux audiences, doit être représentée par un avocat, doit...
Alors effectivement, hein, tant le prévenu, l'homme violent, que la femme victime de violence doivent assister aux audiences, quand bien même elles sont assistées d'un avocat. Et effectivement, c'est fortement recommandé, comme on l'explique, parce que la procédure, c'est pas évident de manier toute la procédure et la logique de cette procédure. Quels sont ses droits? Est-ce qu'elle peut demander une indemnisation? Donc effectivement, quand elle est victime, elle doit se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice corporelle, hein, lorsqu'elle est victime de violences physiques. Donc, pour répondre précisément à votre question, c'est important qu'elle soit là. Et je pense que c'est important même pour elle, d'un point de vue moral et psychologique, qu'elle soit là pour pouvoir ensuite se reconstruire et essayer de passer à autre chose et de construire son avenir avec ses enfants. Donc, c'est impératif. Et également pour le prévenu.
Parce que... Alors, je vais...
Ce qu'il est intéressant de comparer au niveau de la charge de la preuve, c'est que la charge de la preuve est plus importante en matière pénale parce qu'avec cette ordonnance de protection, finalement, la charge de la preuve a été considérablement allégée. Parce que quand on regarde l'article du Code civil, on voit que, en fait, pour que le juge aux affaires familiales prenne une ordonnance de protection, il suffit qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime. Donc, il faut presque moins prouver. Et tout ça, ça a été fait, cette loi, pour protéger la femme.
Je voulais juste apporter une précision pour rebondir, justement. Effectivement, on a des avancées législatives en la matière. Hein. L'ordonnance de protection ne cesse d'évoluer avec la dernière loi de 2014. Néanmoins, dans la pratique, on le voit, quand bien même pour diligenter une procédure en vue d'obtenir une ordonnance de protection, on n'aurait pas besoin de déposer plainte au préalable, hein, c'est l'esprit même des textes. Néanmoins, en pratique, devant les magistrats, devant le juge aux affaires familiales, si la femme ne dépose pas plainte, c'est en tout cas fort probable qu'elle n'obtienne pas son ordonnance de protection. Donc je tiens à rappeler que réellement, le dépôt de plainte, c'est l'élément déclencheur.
Alors, on n'est pas loin de la fin de l'émission. Je voulais juste vous poser une question qui n'est peut-être pas dans l'ordre des paragraphes de votre guide, mais financièrement, comment ça se passe ? Je veux dire, la femme, il y a un éloignement du conjoint, du domicile conjugal. En attendant d'avoir des indemnités ou une pension, éventuellement une pension alimentaire après un divorce,
stade de l'ordonnance de protection, elle peut demander devant le juge aux affaires familiales que le mari contribue aux charges du mariage.
D'accord.
Attention, on n'est pas au stade
D'accord.
de la pension alimentaire,
D'accord.
effectivement. Ça
avant,
sera...
avant même qu'il y ait une procédure de divorce.
Exactement, parce que D'accord. l'ordonnance de protection se fait bien évidemment, enfin en général, en amont, avant le lancement de la procédure de divorce. Et donc attention, elle va va pas obtenir une pension alimentaire, ce qu'on obtient dans le cas d'une procédure de divorce, mais une condamnation à ce que son conjoint participe aux charges du mariage, c'est-à-dire paiement du loyer, des charges de la vie courante. En revanche, concernant les enfants, là, c'est exactement la même mesure que dans le cas d'une procédure de divorce, c'est-à-dire que la femme va pouvoir demander une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Voilà. Très bien. Parce que c'est souvent aussi la question que nous posent les femmes, enfin les craintes qu'elles ont, c'est-à-dire, je n'ai aucun moyen de subsistance. C'est-à-dire que mon mari qui possède tout l'argent, et il me donne petit à petit de quoi me nourrir et nourrir les enfants. Donc c'est pour elles une grande crainte.
Ensuite, il y a d'autres aides au niveau social, bien évidemment, et puis elles sont prioritaires désormais pour obtenir un logement, et notamment lorsqu'elles établissent des démarches pour obtenir un logement social.
Après, c'est vrai que les dommages et intérêts, par contre, sur le plan pénal, parce que c'est intéressant toujours de comparer, qu'elles obtiennent suite à la plainte, par contre, sont assez dérisoires en France comparés à d'autres pays.
Écoutez, on arrive malheureusement au terme de cette émission. Je vous remercie infiniment, Maître Marcovici et Maître Karen Perel.
Merci à vous.
Catherine Perel-Mutter, excusez-moi, d'avoir informé nos auditrices sur leurs droits. Je vous propose qu'on se retrouve dans un cycle d'émissions d'une manière plus générale pour poursuivre les informations que vous nous avez données, et vous, Maître Perel-Mutter, pour nous parler plus spécifiquement du problème des enfants dans ce cas-là.
Avec plaisir.
Vous étiez à l'écoute de l'émission mensuelle de Noah Osez le dire, ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes victimes de violences conjugales. Notre permanence a lieu du lundi au jeudi de 13h à 16h. Vous pouvez nous joindre au numéro suivant, le 01 47 07 39 55. Je répète, le 01 47 07 39 55. Vous pouvez également consulter notre site internet noahosezledire.fr et nous retrouver sur Facebook. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, mesdames.
Merci beaucoup.